À l'époque comprise entre 20 000 et 10 000 en avant le Christ, le Mésolithique, les communautés humaines ont commencé à abandonner le nomadisme au profit de la sédentarité. Plus tard, au Néolithique, des communautés plus stables ont commencé à se former, pratiquant principalement l'élevage et développant l'agriculture, ainsi que des formes plus primitives d'artisanat. À ce stade, l'économie était principalement basée sur le dos, puisque la production des individus était suffisante pour eux-mêmes, leur famille et la communauté. Le dos permettait d'éviter le gaspillage et aucun objet n'était attendu en retour, il n'était donc pas nécessaire d'établir une valeur pour les objets échangés ou donnés. À certains moments, lorsque les communautés sont de plus en plus nombreuses, les ressources peuvent commencer à manquer, de sorte que le dos ne va plus de soi. Les gens avaient tendance à ne donner leur surplus qu'aux personnes qu'ils connaissaient ou qui pouvaient plus facilement leur rendre l'appareil. Vers 8000 ans avant le Christ, les populations sont devenues de plus en plus stables et les communautés de plus en plus grandes. La spécialisation des métiers devient inévitable et avec elle la nécessité d'échanger, puisque les individus ne produisent plus tout ce dont ils ont besoin pour eux-mêmes. Une nouvelle forme d'économie a été introduite, le troc. Le troc a apporté d'énormes avantages au développement des communautés, mais il avait aussi des limites importantes. La première était la nécessité de créer des rapports d'échange, une pomme ne pouvait pas valoir autant qu'une vache, pour une question de valeur intrinsèque et d'utilisation possible. La deuxième limite était le caractère périssable de la plupart des produits, en particulier les produits biologiques qui étaient auparavant vivants, légumes récoltés, gibier, animaux abattus. Enfin, le fractionnement n'était pas toujours possible, car par exemple un mouton divisé en plusieurs parties n'avait pas la même valeur qu'un mouton vivant. À l'époque du troc, il n'existait pas de base universelle pour comparer la valeur des marchandises, il fallait trouver un moyen d'échange communément accepté, divisible, non périssable en peu de temps, éventuellement stockable et facilement transportable. Parmi les meilleurs candidats figurait le blé, pour les échanges de plus grande valeur, un autre bien a été choisi, le mouton, en latin pecus, d'où dérive pecunia, c'est-à-dire l'argent. Grâce aux conventions sociales, il était possible de payer en grains ou en moutons même ceux qui fournissaient des services et pas nécessairement des produits tangibles. Avec le développement de la métallurgie et le passage des siècles, l'or a commencé à être utilisé comme moyen d'échange universel. La forme la plus pratique pour le traitement et l'utilisation était le discoïdal, c'est avec lui que sont nées les premières pièces de monnaie. Cependant, chaque communauté avait ses propres pièces de monnaie avec ses propres valeurs conventionnelles, et ils ont donc commencé à créer des tableaux avec les différents rapports d'échange. Les pièces de l'époque valaient autant que la matière qui les constituait, pour éviter de les peser à chaque transaction, il était imposé de créer un cercle sur la circonférence extérieure de la pièce lors de la frappe. L'absence de ce cercle aurait révélé une contrefaçon. Point pour les échanges de faible valeur, de trop petites coupures de pièces étaient nécessaires. Pour éviter cela, des matériaux non nobles, comme le cuivre, étaient utilisés. Avec le cuivre, il était possible de frapper des pièces dont la valeur nominale était supérieure à la valeur du matériau lui-même, c'est ainsi qu'est né le concept de seigneuriage, c'est-à-dire la différence entre la valeur frappée et la valeur intrinsèque de la pièce. Grâce au seigneuriage, les souverains pouvaient générer de la richesse à partir de rien. Les marchands qui étaient payés avec des pièces en alliage métallique ont dû demander des montants plus importants de monnaie pour atteindre la bonne quantité d'or pour l'échange, le concept d'inflation a commencé à émerger. Au Moyen Âge, on pensait prévenir l'inflation et le seigneuriage en adoptant le concept selon lequel une nation ou une ville ne pouvait frapper une monnaie que si une quantité équivalente d'or était conservée dans son trésor. En fait, cependant, il était pratiquement impossible de contourner cette première forme de l'étalon or. Les premières formes de billets de banque en papier ont vu le jour en Chine, puis les marchands ont introduit cette pratique en Europe. À partir du XIIe siècle, les lettres d'échange se sont également répandues. Ces documents remplaçaient les espèces, l'émetteur recevait une quantité d'argent et s'engageait en échange à rembourser cet argent avec une autre monnaie en un autre lieu. Les lettres d'échange ont facilité le transport des objets de valeur pour les marchands et les personnes en général, et ont réduit les risques liés à la manipulation de leur physique.